Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau numéro du carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée avec les radios associatives régionales qui vous proposent comme information cette semaine. L'association Lodévoise Pays Arbres nous présentera un projet, son objectif, planter des haies en terre agricole. Nous le verrons avec nos confrères de Radio Lodève. Philippe Sorel, maire de Montpellier, est revenu lundi dernier sur les résultats des élections européennes, tendance nationale. Nous l'avons vu avec le Rassemblement National en tête, mais aussi et surtout au niveau local. Rencontre avec le maire de Clermont-Lérault également pour un état des lieux sur les habitations, bâtiments de la commune qui nécessitent une réhabilitation rapide avec l'explication des procédures en cours. Ensuite, nous irons du côté de Bédarieux avec la semaine passée la pose de la toute première pierre du nouveau et prochain cinéma dans l'Hérault, aux amateurs des salles obscures. Événement littéraire également avec les toutes premières rencontres de Salinel. Delta FM nous dira tout sur cet événement, ou presque, avec les dates qui auront lieu, notez-le bien dans vos agendas, les 15 et 16 juin prochains. Bienvenue, c'est le carnet de région de l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Planter des haies sur les surfaces agricoles dans l'Hérault, c'est le dispositif Hérault et le petit jeu de mots va bien, qui est mené par l'association lodévoise Pays Arbres, sous l'égide de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et pour tout savoir sur ce projet de plantation de haies, c'est Tanguy Gourmelon, qui est animateur au sein de l'association Pays Arbres. Il est au micro de Damien Sentès de Radio Lodève.
Donc ça fait 20 ans qu'il a été mis en place, plutôt à l'initiative à la base d'agriculteurs, qui ont fait le constat il y a une vingtaine d'années qu'il n'y avait plus assez de haies pour maintenir une biodiversité et une richesse dans les champs et qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a une vingtaine d'années. Et donc, ils ont mis en place ce dispositif en Midi-Pyrénées. Et puis, avec l'extension de la région, ce programme s'est étendu à l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Enfin, le propos a été pour la région de trouver des opérateurs de l'arbre à l'échelle départementale. L'idée, c'est que ce soit porté par des acteurs de proximité qui puissent vraiment, sur le terrain, accompagner les plantations et que ça reste pas comme ça quelque chose d'un peu hors sol où il y aurait pas de relais local, quoi. Dans les années 50, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Et puis, pour travailler avec des machines, la mécanisation, c'était pas pratique d'avoir des parcelles qui faisaient 10 mètres parce qu'il fallait faire demi-tour à chaque fois. Et dans un désir de faire mieux, je crois que c'était pas du tout une mauvaise intention quand c'est arrivé, on a décidé comme ça de faire le remembrement et de collecter plusieurs parcelles pour en faire une seule et pour aider les agriculteurs à être plus productifs et pour relancer la production agricole dans nos pays. Ça a été peut-être fait un peu vite et on n'a pas pensé aux conséquences qui étaient que finalement ces haies, au-delà de marquer les territoires, c'est-à-dire d'être des limites physiques, elles rendaient aussi énormément de services. Et puis, ça garantissait un écosystème et une biodiversité des plus riches, quoi. Ça fait ce qu'on appelle un tampon climatique, en fait. Ça va éviter les trop chauds, les trop froids. Ça tamponne un petit peu. Sur le vent aussi, il y a énormément d'actions sur le vent qui assèchent les sols. Donc, régulièrement, on peut installer des haies à contre-vent, c'est-à-dire pour limiter un petit peu la force du vent sur la parcelle. Ça permet, si on les installe, par exemple, à contre-pente, de limiter aussi l'érosion. Il faut savoir que c'est une des problématiques de l'agriculture moderne, finalement, c'est la perte des sols. Les haies, elles vont retenir et elles vont fixer du sol. Donc, ça, c'est aussi très important. Que dire de plus, elles fabriquent de l'humus en permanence, c'est-à-dire que c'est un générateur de matière, c'est un générateur de sol en fait pour fabriquer du sol. Le sol, c'est le résultat d'un couple fondateur qui est un peu l'arbre et le sol.
Et pour avoir de plus amples informations sur ce projet Hérault Haies, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association, le www.paysarbres.org. Au lendemain des élections européennes qui ont propulsé le Rassemblement national à la première place, le maire de Montpellier, Philippe Sorel, et président de Montpellier Méditerranée Métropole, a tenu une conférence de presse lundi dernier. Philippe Sorel est revenu sur le résultat de ces élections européennes d'un point de vue national et local, car Montpellier a su renverser la tendance dans sa métropole. Philippe Sorel est au micro de nos confrères de Radio Aviva.
Le modèle de Montpellier a encore une fois fonctionné parce que si vous regardez les résultats de toutes les villes à partir de Nice, Marseille, Toulon, Nîmes, Alès, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan, toutes sont aux alentours de entre 25 et 30% pour le Front National. Montpellier est à 15. Sur la métropole, le Front National est premier. Si on ne compte pas les résultats de Montpellier, si on compte les résultats de Montpellier, c'est la République en marche qui arrive à la première. Donc, ce qui prouve bien combien le score de Montpellier est important pour, non seulement pour la ville, mais aussi pour la métropole. Montpellier a renversé la tendance pour la métropole, mais Montpellier a proposé un autre résultat un peu particulier ici sur le cordon méditerranéen. Qui la rend singulière, mais il y a aussi la sociologie qui entre en jeu, et puis il y a les réponses sociales, écologiques, culturelles, sportives que nous faisons et qui satisfont les habitants. Si j'avais été écouté au niveau national, l'image de la France aujourd'hui serait de couleur orange, pas noire. Et les réponses locales, c'est le social, c'est la culture, c'est le sport, c'est tout ce qui concerne l'écologie, le temps libre, le logement social, la mixité sociale, les quartiers que l'on reprend, c'est tout ça. Et les gens le voient, ils m'ont suivi. On ne peut pas dire qu'ils ne m'aient pas suivi. Ils m'ont suivi, j'ai appelé à voter... a voté contre le Front National, ils m'ont suivi. J'ai appelé, ils me suivent sur les mesures écologiques que je prends, ils me suivent sur les mesures culturelles et ils me suivent aussi sur la gouvernance citoyenne que nous avons mis en place et qui passe par un nombre de réunions publiques colossales qui fait que les habitants sont intégrés dans tous les projets.
C'est le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, avec les radios associatives qui vous proposent de nombreux sujets d'information. 6 mois après l'effondrement de 2 immeubles vétustes à Marseille, qu'en est-il des centres anciens de notre territoire? Exemple, à Clermont-l'Hérault, où l'an passé, à la suite d'une étude sur la revitalisation du centre ancien, un bâtiment inspecté s'est révélé être dans un état de fragilité dangereux. Il a donc été déclaré en situation de péril imminent, une procédure engagée par les mairies pour forcer des propriétaires à financer des travaux de consolidation. Depuis, d'autres bâtiments clermontais ont été repérés dans le cadre d'une étude sur l'amélioration de l'habitat engagé par la commune, mais également la région, le département, ainsi que la communauté des communes du Clermontais. Actuellement, 5 d'entre eux sont en situation de péril imminent, dont 3 depuis le 15 mars. Dans l'un des cas, un contentieux est en cours entre l'État et les propriétaires de l'immeuble. Dans un autre cas encore, des travaux d'office ont été engagés par la ville, le propriétaire ne les assurant pas. Le maire de Clermont-l'Hérault, Salvador Ruiz, explique la procédure une fois qu'un bâtiment dangereux a été repéré.
Il y a tout d'abord un signalement, on le signale au propriétaire. Si les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux, après ça revient sur la mairie, donc on est obligé de faire les travaux. Et après, on envoie, comme on dit ici, les travaux sont à notre charge, après on envoie la facture au propriétaire.
Voilà. Ça coûte combien?
Ça dépend. Ça peut aller derrière les travaux qui ont été réalisés pour maintenir le bâtiment. Je crois que c'est aux alentours de 25 000 euros, là. Rien que là, je dis pour consolider et pour lever le péril imminent.
Et on les découvre comment, ces bâtiments?
Ben, on les découvre, voilà, on demande si on peut rentrer, voilà. Donc après, quand on fait une inspection du bâtiment lui-même, donc à partir de là, ce sont les experts qui déclarent si le bâtiment, il peut être habité ou pas. Ce sont des logements, pour certains, ont plus de 200 ans. Donc voilà. Donc après, au fil du temps, avec les héritiers, donc après, voilà. Où on obtient des copropriétés, donc après c'est pas bien géré. Et pendant une période, comme on dit, il y avait un peu voilà de l'habitat où c'était de la colocation, c'était un peu particulier. Donc petit à petit, justement, toute cette opération est là pour, comme on dit, rendre l'habitat, comme on dit, qualitatif. Et à partir de là, on commence par faire une étude et repérer vraiment les bâtiments qui posent problème.
C'était Salvador Ruiz, maire de Clermont-l'Hérault. Précisons qu'un bâtiment qui a lui aussi bénéficié de la procédure de péril imminent vient d'être restauré, consolidé en centre-ville du Clermontais. Sujet de nos confrères de Radio Pays d'Hérault. La première pierre du cinéma de Bédorieux a été posée la semaine passée, un lieu important pour la ville et pour le Grand Orbe. Et la région Occitanie a fortement participé pour la création de ce nouveau cinéma. Hussein Bourgi est conseiller régional.
La région Occitanie a contribué à hauteur d'1 million d'euros, un peu plus de 25% au coût du projet, parce que ça nous a semblé un projet structurant pour ce territoire, un projet important pour permettre aux habitants des hauts cantons de l'Hérault, de Bédarieux, autour de Bédarieux, de Grand Orbe, de pouvoir bénéficier d'une qualité d'accès aux films, aux documentaires aussi bonne que les populations des grandes villes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons contribué à ce financement-là. Mais c'est aussi un outil pédagogique, parce que tout au long de la journée, pendant l'année scolaire, c'est un cinéma qui va accueillir des élèves, des écoles, des collèges et des lycées qui vont pouvoir venir ici avec leurs enseignants, découvrir une œuvre cinématographique, la mettre en perspective avec justement des sujets de société, avec des sujets historiques. Et finalement, à travers un film ou un documentaire, parfois, on arrive à illustrer, à incarner une problématique, à inviter à la réflexion, à un débat, le public, que ce soit le public des adultes, donc ça sera l'action des associations et de la municipalité et de l'intercommunalité, mais que ce soit aussi un public beaucoup plus jeune, et là ce sera le travail des enseignants.
Vous participez assez souvent à des projets pour la ville de Bédarieux.
La région est souvent sollicitée pour les projets de Bédarieux, que ce soit pour les lycées par exemple, la réhabilitation, la rénovation des lycées, que ce soit pour l'activité économique à travers le parc régional d'activité économique sur le territoire ici, que ce soit pour la rénovation du jardin des plantes de Bédarieux ou la rénovation du centre ancien de Bédarieux, parce que naturellement ce sont des lieux qui sont identitaires de cette commune, ce sont des lieux qui sont appréciés des habitants de cette commune, ce sont des lieux qui sont appréciés aussi des touristes qui passent ici l'été, et pour soutenir les commerces de proximité, pour soutenir les restaurants, les cafés, pour soutenir justement tous ces commerces où les touristes vont consommer, il faut que le centre-ville soit beau, esthétique, fonctionnel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le maire de Bédarieux et les élus nous sollicitent pour les aider à entretenir ce patrimoine, le jardin des plantes, à améliorer la circulation dans les rues, à améliorer l'éclairage, l'esthétique du centre ancien pour le mettre en valeur, nous le faisons volontiers.
Oui, alors vous disiez que vous étiez là à chaque fois qu'on vous sollicitait.
Bien sûr, parce que lorsqu'on est élu, on est au service de la population. Il se trouve que moi, je habite Montpellier, avec les élus du territoire. On siège ensemble au parc régional d'activité économique, on siège ensemble au parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors effectivement, on se croise souvent et ils ont souvent des dossiers à me remettre. Alors parfois, ce sont des dossiers de financement pour la ville de Bédarieux, pour les communes de Grand Orbe. Parfois, ce sont des dossiers pour des associations. On aide beaucoup les associations sur ce territoire-là. Et ça participe aussi de la vie de ce territoire. Et naturellement, la région se doit d'accompagner à chaque fois qu'elle est sollicitée, les initiatives associatives, les initiatives sportives, les initiatives culturelles, parce que c'est ça aussi qui contribue à la qualité de vie sur ce territoire-là.
Hussein Bourgi, conseiller régional d'Occitanie, au micro de Claude Durbézic pour RCF Maguelone Hérault. Les premières rencontres de Salinelle, intitulées Littérature et création doc actuelle sur le thème de la poésie, auront lieu les 15 et 16 juin prochains dans le petit village de Salinelle, proche de Sommières. Cet événement s'inscrit dans une volonté de faire le lien entre la tradition littéraire doc et une création contemporaine plus récente. Mélissa Simon de Delta FM a reçu son co-organisateur de cet événement, alias Paul Martin.
Alors les rencontres de Salinelle sont des rencontres de littérature et de création doc actuelle, c'est-à-dire musique, photographie, des contes, etc. On va en parler un peu plus. Alors ça se déroule le samedi 15 et le dimanche 16 juin, à partir de 14h, 14h30 le samedi, jusqu'au dimanche matin, en fin de matinée, avec un grand hommage à Frédéric Jacques-Temple, qui est un grand poète qui habite près de Sommières, et qui est un poète montpelliérain très connu au niveau national.
C'est la poésie qui sera au centre de la programmation cette année.
Oui, alors on a tenu à se faire rencontrer, c'est pour ça que ça s'appelle les rencontres de Salinelle, cette année à se faire rencontrer les jeunes poètes de la jeune génération, c'est-à-dire entre 20 et 40, 45 ans, de langue occitane, donc provençale ou languedocienne, ou même gasconne. Il y aura, par vidéo, il y aura peut-être une jeune poète gasconne.
Quel est le programme? Est-ce qu'il y aura des ateliers prévus sur place?
On commence à 14h30 le samedi avec une sieste poétique et musicale. C'est là que l'on entendra d'ailleurs les jeunes poètes dire leur poésie. Après, on a pensé aux enfants parce que c'est important. Et les petits et les moins petits, on va dire, jusqu'à 13-14 ans, vont avoir la possibilité d'écouter des contes de 16h à 17h30, 17h, 18h même peut-être. Il y a trois conteuses qui vont venir. Il y a Danielle Julien qui vient de Tarascon. Il y aura Lise Gros qui vient de Nîmes et qui est très connue, qui est la fille de Georges Gros. Et puis il y aura Catarina Ramonda, une conteuse qui vient des vallées italiennes où on parle provençal. Elles vont se partager des groupes d'enfants de 5 ans à 12, 13 ans. Voilà.
Donc la volonté première de ces rencontres de Salinelle, c'est de faire le lien entre la tradition littéraire d'oc et la création contemporaine, donc plus moderne.
Mais c'est quand même surtout sur la création contemporaine, la création d'aujourd'hui. En particulier, on va accueillir après les contes, à 17h30, à peu près 17h15, il y aura ce qu'on appelle une performance poétique, c'est-à-dire que pendant un peu plus d'une demi-heure, on aura une poète qui est très connue, qui est une jeune poète de la région de Toulouse, qui s'appelle Aurélia Lassac, qui viendra et qui dira un poème entier, qui est un peu l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, vu du côté peut-être un peu féminin, hein, cette fois-ci.
Cet événement, est-ce qu'il est ouvert aux personnes non averties sur la langue d'oc?
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est complètement bilingue. C'est-à-dire qu'on veut que les gens qui s'intéressent simplement à la poésie, qu'elle soit occitane ou de langue d'oc ou provençale, ou qu'elle soit de langue française, peuvent venir parce que chaque fois il y a des alternances entre le languedocien ou le provençal et puis le français.
Vous avez peut-être des coordonnées à communiquer pour les gens qui souhaiteraient plus d'informations sur cet événement?
Oui, ben alors ils peuvent aller sur le site Facebook de l'AUCEU Libre. L'AUCEU Libre, L-A-U-C-E-U-L-I-B-R-E. Sur Facebook et puis ou sur le site d'ailleurs des éditions. Je rappelle que c'est à Salinelle. Salinelle, c'est un petit village qui est à 3,5 km au nord de Sommières, et là ce sera complètement indiqué. C'est un événement total festum, mais il faut bien le rappeler parce que ça veut dire que c'est un soutien très fort à la fois de la région Occitanie et aussi du CIRDOC, qui est le centre de culture occitane qui est située à Béziers. L'entrée est libre et gratuite, y compris pour l'événement majeur du soir, qui est le grand concert gratuit du groupe Moresque, et qui donnera donc 2 heures de concert.
Merci.
Le carnet de région, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les radios qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce magazine d'information pour cette semaine. Merci aux autres pour sa diffusion. Prochain retour du magazine régional, le magazine d'Occitanie, Pyrénées et Méditerranée, c'est bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, passez toutes et tous un excellent et très bon week-end. Et puis, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. C'était le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.